Et donc ça, c'était pas les Beatles, c'était une cover. Et sans transition, on va vous faire écouter L'amour sous une bonne étoile.
L'amour sous une bonne étoile.
Un podcast documentaire de Delphine Proutot et Pierre-Étienne Vilbert.
J'avoue, dès les premières semaines, j'étais genre vraiment fan. Genre vraiment, vraiment, vraiment.
Moi, j'attendais que ça. C'était un soir de bal, oui.
Oui, on s'est rencontrés.
Un soir de bal. Donc, on a dansé ensemble, puis après, on s'est jamais quittés. Moi, j'avais 16 ans, puis lui, il allait avoir 18 ans.
On n'a pas la même version, je pense.
Non, vas-y.
J'avoue que jusqu'à maintenant, j'avais pas eu de vrai amour.
Presque à contrario, les moments de soutien, ils sont fréquents entre nous. Enfin, ils sont en permanence. Il y a un réel soutien mutuel et qui existe aussi énormément quand il n'y a pas d'épreuve.
Alors que justement, le fait qu'elle soit comme ça, à 1000 à l'heure, toujours très enjouée, toujours très speed et que ça va dans tous les sens, ben, c'est ça qui m'attirait à fond. J'étais confiant.
C'était complètement perturbant.
De toute manière, ben, y a une mobilisation. On se mobilise l'un pour l'autre. C'est indéfectible à ce niveau-là.
En fait, je pense que c'est un peu d'être tout le temps en veille l'un pour l'autre. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est assez fort. On est en veille ou en entraide. Et quand tu dis réveiller, c'est un peu de savoir si la lumière de l'autre, elle est toujours allumée.
Là-dessus, on ne sait jamais. Il n'y a jamais eu de distension entre nous, non. Ça a été l'amour parfait. Voilà.
Et encore.
Et encore, oui.
Et ben donc, nous voilà avec une nouvelle série de podcasts.
Il faut que tu mettes les micros.
Ah oui, pardon.
Parce que je les ai enlevés pendant qu'on était que deux.
Excusez-moi. Du coup, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Comment ça va là, vous êtes habitué maintenant à la maison?
Oh oui, on sent vraiment chez soi. Cet endroit est si chaleureux.
Oui, on aime bien venir là.
Et donc, vous venez nous présenter une nouvelle œuvre, une nouvelle création?
Ouais, alors l'idée là, c'est pour le coup, c'est un podcast donc documentaire. Après Global 404 qui était de la fiction, là on est vraiment dans le documentaire. Un documentaire qu'on a voulu le plus discret possible, c'est-à-dire juste un témoignage de couple représentatif. C'est la thématique de l'amour sous une bonne étoile. Des couples qui ont, comme dirait, trouvé un truc, trouvé un secret pour vivre l'amour de manière harmonieuse, quoi.
Mais harmonieux, ça ne veut pas dire que c'est facile.
Ça ne veut pas dire que c'est facile.
Non.
Mais il donne des tips.
Ouais, voilà, l'idée en tout cas, c'était de parler d'amour et pas forcément justement en dépeignant quelque chose de rose et de. Mais de dire que ben, l'amour. Ouais, l'amour est
impossible, quoi.
Est possible et en même temps demande un engagement, demande une envie d'y aller,
un investissement.
Ouais, en tout cas demande ouais, un engagement, je crois que c'est vraiment le mot qui me vient.
Ce sont des gens que vous connaissez avant de faire le podcast. Comment est-ce que vous avez entre guillemets sélectionné ces couples-là?
C'est l'occasion qui fait un peu le larron, quoi, comme on dit. C'est-à-dire que c'est le fait de les avoir rencontrés avant et d'avoir vu une certaine qualité entre eux qui a créé le désir de les présenter, de les faire découvrir dans leur approche de la vie, du quotidien et du couple. Donc c'est trois couples de trois générations différentes. C'est ce qui fait aussi la particularité du sujet. C'est-à-dire que le plus jeune a 25 ans et le plus âgé a 85 ans. Et celui qui a 85 ans, il a 66 ans de mariage derrière lui et plutôt joyeuse. Donc c'est pas toujours le cas quand on évoque un chiffre pareil dans le mariage.
C'est vrai que ça s'entend que les plus âgés s'entendent parfaitement.
Oui, tout à fait. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir qu'ils ont trois générations différentes et qu'ils ont donc traversé des époques différentes. Et donc leur façon de se questionner sur la vie et sur l'amour en l'occurrence est complètement différente, quoi. Et pourtant ça fonctionne.
Ça, c'est le petit bruit qu'on entend, c'est JP qui dépose des cafés pour les invités.
Merci.
N'hésitez pas à vous servir. Mais ouais, on sent une grande sincérité dans la parole qui est dite. Et je me demandais si ça, c'était dû, par exemple, à des conditions d'enregistrement ou c'est simplement votre lien avec eux qui facilite cet échange-là.
Je pense que les deux ont joué. Parce qu'effectivement, c'est les couples qu'on a rencontrés personnellement. Et donc, on a été touchés, nous, par leur relation amoureuse. Donc, automatiquement, ça se ressent dans les témoignages, parce qu'ils nous connaissent. Et donc, il y a un lien. La relation permettait aussi un échange privilégié. Et donc, des confidences et un contexte. Et après, nous, dans la manière dont on organise l'interview.
Oui, du fait qu'on vienne aussi à deux, quoi. Et donc, il y a aussi une sorte de respect, de venir rencontrer un couple, et à chaque fois c'est un couple rencontre un couple, quoi. On vient se voir et on essaie de se faire le plus discret possible, et en même temps on a bien conscience de la confidence qui nous est faite, qu'on va après partager à d'autres, mais voilà, il y a cet espace il y a un espace effectivement privilégié.
Pour nous, le moment de l'interview il est très important aussi, comme un moment en soi déjà, qui nourrit aussi nous je crois que ce podcast, il part de notre envie aussi d'échanger avec d'autres sur l'amour, de pouvoir parler d'amour avec d'autres couples et d'en parler de manière vraiment sincère. Et là, c'était l'occasion, quoi. C'était le podcast a fait le prétexte pour aussi permettre ça.
Ok. JP, toi, tu...
Moi, je vous avoue que j'ai commencé à l'écouter hier. Et... en fait, étant donné que je suis célibataire, ça m'a énervé. je dois être sincère. Hein, donc
Et pourtant, c'est aussi fait dans ce but-là. C'est-à-dire que, pas que ça énerve, hein, mais que ce soit à destination aussi des célibataires, parce que bah, on a aussi des amis autour de nous qui le sont, et qui le sont même depuis longtemps. Et ce qui, pour nous, est vraiment flagrant, c'est qu'à un moment, justement, ils arrêtent d'y croire. Et on s'est dit, il faut partager ceux qui y arrivent pour qu'ils puissent se dire, mais pourquoi ils y arrivent? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi le truc, quoi?
Oui, c'est une bonne idée.
C'est vraiment là. Après,
ouais, ça existe, quoi.
Bah ouais, ça existe.
Lâchez pas l'affaire.
Exactement. et ça part beaucoup de là. C'est-à-dire que ce dont on se rend compte, c'est que le truc qu'ils ont en plus, on pourrait pas dire que c'est une recette miracle, mais ils sont assez en paix avec ce qui arrive. Et qu'ils aient 25 ans ou 85, ils ont ce truc. Ils sont en paix et ils n'ont pas peur d'être seuls. Et n'ayant pas peur d'être seuls, ben, il se passe quelque chose.
Les choses arrivent, oui.
Et après...
Je suis dans le même cas que JP, hein, célibataire. Mais... ouais, en tout cas, là, je trouve que ça vaut peut-être la peine de réfléchir l'amour, finalement. En tout cas, spontanément, ça m'arrive de le faire. Je ne sais pas si... il y a vraiment des leçons à en tirer, mais... Je pense qu'on évolue quand même constamment dans cette réflexion qui est comment ça marche, qu'est-ce que c'est que ce mystère. Finalement, j'ai l'impression qu'on n'ose pas y toucher, quoi. Que introduire des notions, enfin peut-être pas de science, mais d'étude de l'amour, il y a quelque chose qui fait peur là-dedans. On veut pas toucher à ça, on veut pas essayer de comprendre. Ça doit se passer, puis c'est tout.
Oui. Et puis il y a une part de magie qu'on essaye de réinstiller aussi, de croire un petit peu au fait que comme c'est possible, bah on peut aussi se laisser surprendre et être moins dans une approche de contrôle de son existence systématique ou de consommation des individus, des relations. Enfin, ça peut arriver à un moment, mais si on veut passer en quelque sorte une étape différente ou supérieure sur le chemin vers ça, bah c'est bien de se dire tiens, j'aimerais bien que ça m'arrive. Ok, je suis ouvert à ça. Et c'est en ça qu'on a essayé de travailler sur cet aspect-là, quoi.
Je propose un petit morceau.
Ouais,
parfait. Okay.
Alors, c'est une artiste qu'on utilise souvent dans notre matinale du jeudi. Elle s'appelle Noga Ares. Et le titre, c'est Bad Habits.
Attention, ça change de All You Need Is Love. Hein.
C'est différent. Vous êtes sur Radio Panique, 105.4. L'amour sous une bonne étoile.
Bad. Mama, nowhere to go. Please talk to me. Mama, use that behind. No future inside. Mama, words, words, blood stains, sweat in my eyes. Mama, dirt, mud, glass, nails, faces in my mouth. Mama, nowhere to go. Please talk to me. I can hear no line. Trigger finger, stand by. Mama, can't keep quiet. Don't know. The face is white, cracking walls. My thoughts are licking wet. Traces on the floor. I'm no one, but the fuck are you? Huh? I'm no one, but who the fuck are you? Huh? I'm no one, but who the fuck are you? No one, but who the fuck are you?
Looking away, but the warning shines neon. You put the wheel, the tough love, a tough test. You put me on the mama, nowhere to go. Please talk to me, mama. Use that behind, no future inside. Mama, soften, please make it fast and sweet. Crash, drown, who knows? Can you run before I go?
I'm no one, but the fuck are you? I'm no one, but who the fuck are you? I'm no one, but who the fuck are you? No one, but who the fuck are you? No one, but who the fuck are you? Fuck are you? Fuck are you? I'm no one, but who the fuck are you? No one, but who the fuck are you? No one, but who the fuck are you? Fuck are you? Fuck are you? I'm no one, but who the fuck are you? No one, but who the fuck are you? No one, but who the fuck are you? Fuck are you? Fuck are you? No one, but no one but who the fuck are you? I'm no one but who the fuck are you? I'm no one but fuck you. No one but who the fuck are you? No one but who the fuck are you? Fuck are you? Fuck are you? I'm no one but who the fuck are you? No one but who the fuck are you? No one but who the fuck are you? Fuck are you? Fuck are you? I'm no one but fuck you. No one but who the fuck are you? No one but who the fuck are you? Fuck are you? Fuck are you? I'm no one but who the fuck are you? No one but who the fuck are you? No one but that's my letter. Best revenge, I'll see you later. Words speak louder than actions. I hope you read it and hit rock bottom. I hope you walk with that out of bottom. I hope you choose to say you're disgusting. You're nothing for them. Your time is almost over. Final act, smile when you break. You're so fake and I'm so ready. It becomes ready. You're on my machete. I feel so sweaty. I feel so dirty. You do what's so proud of. Too much to sense. The bad is for me. I guess it's time. Excuse me, but I got a letter to climb. Ooh, that's my cue. I'm through.
Moi, je crois que c'est clair. Donc, c'était Noga RS avec le titre Bad Habits. Ça se termine avec un petit peu de bruit de nature. La nuit. Du coup, ça me fait penser à une question. Donc, je vous ai dit, j'ai commencé à l'écouter, puis ça m'a énervé, donc je me suis arrêté.
J'espère que tu reprendras. Mais...
Bah oui, a priori, c'est juste que hier j'étais dans un état d'esprit, j'ai commencé à le faire dans le salon, avec du monde, c'était pas propice, et il était trop tard pour que je le fasse dans des bonnes conditions. Je pense que je vais craquer, je vais l'écouter évidemment, mais ma question c'était par rapport à la musique qui peut amener, qui peut illustrer, qui peut inspirer, je sais pas si vous en avez mis dans vos podcasts.
Non, là en l'occurrence, le choix était vraiment axé sur le témoignage. Et donc c'est la seule musique, c'est celle du générique. Okay. C'est Stuart Evans en l'occurrence. Mais c'est pas du tout un élément qu'on a voulu intégrer davantage, puisque finalement on est sur trois épisodes pour une saison qui sont de chacun à peu près 20 minutes. Donc c'est pas très très long. Et c'est vraiment laisser la place au contraire au témoignage. Et le principe, le dispositif lui-même, comme tu vas t'en rendre compte, c'est que les trois interviews sont toutes seules, sans du tout les questions, sans aucun intervieweur. Nous, on n'est pas là. Et c'est comme si les couples se livrent, mais en même temps, en dialoguant, chacun avec l'autre d'une certaine manière, ou en faisant part de leur témoignage, eh ben, il y a comme une addition, une multiplication des dialogues qui se créent. C'est-à-dire qu'il y a deux dialogues qui se multiplient avec les autres qui sont à côté. Donc c'est un peu le principe. Et la musique aurait fait des ruptures dans un format qui est déjà quand même assez petit, et il n'y avait pas de nécessité d'en rajouter, ni non plus pour souligner quelque chose de trop, on va dire, poétique ou voilà.
Ouais, romantique.
Oui, il y a une simplicité volontaire dans la réalisation.
Ce qui est rigolo, c'est qu'on ne sait pas toujours qui... Enfin, oui, on ne sait pas toujours qui parle. Les personnes ne sont pas présentées. Peut-être qu'elles disent leur nom, ça je sais plus.
Elle l'évoque quand elle parle de l'autre, mais effectivement on l'a pas souligné.
Ça c'est pas, voilà, je m'appelle machin, je suis avec truc, c'est pas comme ça du tout.
Non, tout à fait.
Et c'était pas facile au départ pour eux de jouer le jeu, de se livrer, et que ce soit les plus jeunes, au début ils ont annulé le premier rendez-vous. Le garçon, il avait plus envie, il osait plus, non, parler d'amour, puis le stress de se faire interviewer. Donc on a dit bon, ok, on reporte un autre moment.
Si je me souviens bien, le même garçon, il veut pas au départ parler d'un date.
Oui,
ouais, c'est ça.
Exactement.
Il refuse tout.
Oui,
son casement, tout.
Oui.
Bah, les garçons, ça parle pas d'amour, hein. Ça pleure pas, ça a pas d'émotion. C'est des rocks.
Et en fait
non.
Et en fait, c'est eux qui en parlent le mieux.
Oui, en tout cas, ils sont touchants. Et ce qui est sûr, c'est qu'on sent, y a beaucoup de, mais je trouve que c'est une qualité. Il y a beaucoup de tremblements dans la voix. Il y a beaucoup de, on sent l'émotion dans leur façon de parler de ça. En ça, je trouve qu'on, c'est très sincère, quoi, comme témoignage.
Bah, merci.
Merci.
C'était l'idée, donc.
Ça a marché, c'est sûr. On a Jeanne qui est arrivée en studio.
Bonjour tout le monde.
Est-ce que oh
bonjour,
yes, bonjour, son micro marche.
Guten Morgen, Jeanne.
Guten Morgen.
Tu sais que c'est la Sainte Jeanne de France?
Ah bon, j'étais restée sur la Sainte Véronique.
Oui. Et la Sainte Guido aussi.
C'est la Sainte Véronique, effectivement. Ouais.
Et pour revenir sur ce que tu évoquais sur le célibat.
Oui.
Et il se trouve que ce sera une des thématiques justement d'une des saisons prochaines de L'amour sous une bonne étoile.
Aha !
Eh oui, puisque en fait, L'amour sous une bonne étoile, c'est la grande thématique. C'est l'amour, bien entendu, celle qui fonctionne, des êtres humains qui essaient de se comprendre et de comprendre à vivre ensemble. Mais il y a des sous-thématiques. Et la saison 1 qu'on vous présente là, elle a pour thème la complémentarité. C'est la sous-thématique. Mais il y aura d'autres sous-thématiques sur toutes les questions autour de l'amour. Et en l'occurrence, celle qu'on appelle la quête amoureuse, qui est le fait d'être seul et de chercher ardemment.
L'amour.
Voilà.
Cette quête,
peut-être
effectivement.
Peut-être qu'on s'y retrouvera mieux.
Mais elle va s'appuyer sur des témoignages. Donc peut-être que vous pourrez en faire partie. Voilà, d'avoir des témoignages de...
Mais non, on n'a jamais trop discuté aussi. Nos statuts maritaux.
Ah, bah avant que t'arrives, oui. Ah bon, on l'a fait. Ah bah oui. Ah,
je vais pas participer au sondage.
Levez la main droite et dites je le jure. tu peux mentir, hein, parce que de toute façon, il n'y a pas de détecteur de mensonges sur les micros. Donc, il faut que ta voix tremble, c'est tout.
Je suis un cœur à prendre. En période de confinement, c'est dur. Mais je suis timide aussi devant un micro, en fait. Je sais pas si je pourrais me livrer.
J'ai jamais avec témoignage comme ça.
Et si on change la voix?
Ouais, peut-être, si on anonyme.
Tu mets
de ma voix.
Tu mets une voix de Terminator, bah, on te reconnaît
bien,
pas.
Je veux avoir la voix de Maître Gims pour faire mon témoignage.
Pour parler d'amour.
C'est bien modulé, comme ça, on reconnaîtra pas.
J'ai trouvé Maître Gims.
Et oui.
Est-ce que vous voulez que je vous mette ça, ou vous préférez plutôt crever?
Comment ça s'appelle déjà, plutôt crever?
Ouais,
plutôt crever.
Plutôt avoir mal.
Je préfère un peu de musique avant de mourir, non? Ouais. C'est un peu tôt pour partir.
Alors, on va essayer autre chose.
C'est la matinale de tous les exploits avec la musique.
Ça aussi, c'est un classique. Hein. 8h19 sur Panique.
La saison 2.
fois ça ira, le micro a été allumé. Qu'est-ce qu'il nous fait encore comme blague, le Jeep Jeep?
Il nous remet dans l'ambiance. Amour, rencontre, cœur qui bat.
J'ai tapé les Simpsons, amour.
Mais non.
Saison 21, épisode 15, baiser volé.
Ils ont tout traité.
Toutes les thématiques. Faut imaginer des petites têtes jaunes faire smooch.
C'est les aventures de cœur de Lisa Simpson.
Ah, il y a tout, y a tous les personnages qui s'embrassent là. Hein.
Les Simpson version les feux de l'amour.
Et nous sommes de retour dans les studios du 49 rue Saint-Jos à Saint-Jos, à Bruxelles, en Belgique, en Europe, in the world.
Dans l'univers.
Et on y est très bien.
Et alors moi j'avais une question sur le temps qui est nécessaire pour arriver à faire ces interviews. Bon, j'imagine qu'il y a du temps pour arriver au moment où on tombe sur un moment, enfin choisir un moment, convenir d'un créneau avec les personnes que vous allez interviewer.
Oui.
Et combien de temps dure l'interview? Enfin, c'est pas quelque chose qui est forcément prévu au début, mais.
Alors non, c'est pas prévu de manière formelle et avec on s'arrête avec un chrono à la fin, quoi. Mais on s'est rendu compte pour l'instant que c'est des interviews qui durent en général une bonne heure.
Ok.
Et à la fin, il reste finalement un tiers, quoi. Enfin, en tout cas, la saison 1, elle fait elle toute seule quasiment une heure. Donc voilà, on a.
Mais une heure par couple.
Oui, une heure par couple.
Donc, ouais, donc c'est bon.
On est passé de 3 heures à 1 heure, quoi.
Et vous avez, pour préparer les interviews, vous avez aussi interviewé les couples séparément, par exemple.
Non, jamais.
Toujours ensemble.
Ouais, toujours ensemble. L'idée, c'est pas de faire des blind tests sur.
Oui, non, bien sûr, mais.
Quelle est sa couleur préférée?
pour faire parler des gens, parfois, pour les mettre à l'aise aussi avec vous, ou pour préparer.
Vu que c'est des personnes qu'on connaissait déjà, et c'est vraiment. C'est même, moi, j'insiste là-dessus, c'est parce qu'on les a vus dans leur quotidien, dans leur relation, on s'est dit, mais il y a un truc spécial dans leur relation. Ça a pas l'air chiant. Ils sont ensemble depuis un certain temps. Ils ont l'air vraiment de s'éclater. Et il y a un truc à transmettre, quoi. Et nous, ça résonnait fort quand on se disait, mais pour une fois, on peut parler d'amour de manière, quel que soit leur âge en plus, parce qu'on voyait que dans ces trois couples, on avait l'impression qu'ils se connaissent pas pour le coup, les trois. Et on avait l'impression qu'il y avait un point commun entre eux. Et c'est vraiment pour nous ce qui était fort, quoi.
Oui, puis même la durée est même relative, puisque le couple le plus jeune, ils sont ensemble depuis 2 ans. Le couple de 45 ans, ils sont ensemble depuis presque une dizaine d'années. Et puis donc celui de 85, ils sont ensemble depuis plus de 66 ans. Donc c'est beaucoup plus.
J'allais demander justement, chaque couple, combien de temps ils avaient passé ensemble. Mais voilà, la réponse est là.
Ouais.
Et vous disiez, off les micros, que le plus jeune couple, ils s'étaient rencontrés via Tinder alors.
Oui, tout à fait, c'est ce qu'on découvre, on le découvre dans...
Moi, j'ai écouté que le premier épisode, c'est
ouais,
vrai.
Je crois dans
et probablement que
dans...
ils en parlent tous les deux.
Ils sont rencontrés par ce biais-là, oui. Et c'est vrai que c'est un sujet, comme on évoquait, qui peut être étrange quand on parle d'amour, de se dire, Tinder, là-bas, c'est peut-être un peu fait pour consommer des relations, voilà, pour s'éclater, et pas forcément pour trouver l'amour de sa vie. Mais en fait, c'est comment on utilise l'outil, quoi. On est libre d'en faire l'usage qu'on veut. Comme j'ai coutume de dire, c'est comme un marteau. Hein. Tu peux planter un clou ou fracasser un crâne. Donc voilà, c'est pareil.
Ouais. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait une fille qui me disait aux États-Unis, en fait, Tinder, ils emploient ça fréquemment. C'est vraiment normal pour juste rencontrer des gens comme amis. Mm. Voilà, vraiment comme outil de rencontre hors amoureux. Et quand elle m'a dit ça, je dis ah, mais si tu fais ça ici sur Tinder. Enfin, 90% des gens, c'est pas ça qu'ils veulent, quoi.
Je vais faire une surprise. Intervention naïve, mais ne trouve-t-on pas de tout sur Tinder? Enfin, à la fois un petit peu le marché de la chair, et puis aussi des gens qui cherchent
marché
à rencontrer...
Marché de la chair, c'est bien.
Ah, le corps a ses besoins, que la raison ignore. Mais
Le corps aussi.
Le corps, c'est ce que je viens de dire.
Ah oui,
c'est
vrai. Mais le corps, cœur,
le
aussi.
Corps. Le
corps
aussi. Le corps, le cœur. Mais non, sans jugement. Tu vois, entre personnes consentantes, tout se passe bien, non enfin,
on est d'accord.
Troqué. Mais il y a un peu de tout sur Tinder aussi.
Et c'est ça qui est bien, je pense, justement. C'est que Tinder, au final, en tout cas, ça a la qualité de son défaut ou le défaut de sa qualité, quoi. C'est qu'il y a de tout. Donc on peut
oui,
tout à fait.
C'est vraiment l'outil Tinder.
Exact. Il faut vraiment le prendre comme un outil, certainement. Mm.
Et puis à notre époque, la difficulté, elle est la même qu'il y avait il y a 30, 40 ans, 50 ans. C'est que sortie de la jeunesse quand tu es à l'école ensemble, puis des études ou du travail, ben, t'as pas l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Il n'y a pas du tout ces situations-là.
Il y a le club de ping-pong. Enfin,
exactement. Ben, on a ce cas-là, effectivement, des personnes célibataires qui vont s'engager dans énormément d'activités pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Donc, ce qui n'est pas une mauvaise idée. Hein, mais, donc, voilà, c'est un outil de plus pour créer cette occasion-là de rencontre, quoi, finalement.
Les sites de rencontres seront-ils traités dans la saison 2 pour les célibataires en recherche d'amour.
Il y aura un sujet sur la quête amoureuse, mais
il va concerner ceux qui sont en quête amoureuse, ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qui les anime et comment ils envisagent ça. Bah, c'est de la même manière, c'est aussi parce qu'il va y avoir un témoignage de personnes sincères qui vont dire, bah voilà, moi j'ai envie vraiment de ça, que d'autres qui sont dans la même situation vont se dire, ah mais ça existe aussi, mais moi aussi je suis d'accord, tu vois. Et ça crée cette possibilité, on peut dire cette étoile vers laquelle tu peux te diriger, comme dirait Jacques Brel.
Vous avez déjà vous avez déjà des idées de personnes à interviewer pour les prochains épisodes?
Oui.
Célibataire, il doit y en avoir.
Il y en a
pas
près.
Mal.
On a pas mal quand même dans l'entourage. Donc, et puis en plus, on pense qu'ils ont des choses à dire sur l'amour. C'est pas parce qu'ils sont seuls qu'au contraire, ils peuvent vraiment en parler.
Moi, je cultive un souhait intérieur aussi fort, c'est que justement, on rencontre beaucoup de gens qui vivent des histoires d'amour, mais qui durent pas, qui vivent des histoires d'amour d'un soir ou d'un mois ou d'un an, et puis ils sont en souffrance à un moment donné de ça quand même aussi. Je pense qu'on aspire tous quand même à vivre des histoires, et moi j'ai la chance de vivre une histoire qui dure, et c'est vrai que je me dis, mais j'aimerais que plein de gens puissent, que ces personnes-là qui vivent beaucoup, qui enchaînent beaucoup, beaucoup d'histoires, c'est vrai que je ne sais pas si on y arrive, mais moi c'est un souhait que j'ai mis dans la création de ce podcast, c'était de transmettre ça, cette possibilité que l'amour puisse durer.
Plaisir du couple qui dure, quoi.
Oui, et que c'était vraiment, que ça pouvait vraiment être aussi
trippant,
excitant, déjanté qu'une relation qui dure un mois, quoi, et même beaucoup plus en fait, je pense. Mais
bah, j'ai quand même l'impression que dans les gens autour de moi, c'est pas qu'ils ne veulent pas vivre une longue expérience amoureuse, c'est que c'est difficile à tenir pour eux, ou que dans l'amorce de la relation, parfois il y a aussi des attentes qui sont déplacées, mmh. Et qu'au final ça ne marche pas. Mais, allez, je sais pas quel pourcentage, mais une bonne partie des gens que je connais aimeraient que ça dure et n'y arrivent pas.
Mmh. Faut être deux, hein. Ouais, c'est souvent il y en a un qui a moins envie que l'autre quand ça marche pas. Parfois les deux,
c'est mathématique,
qui se heurtent sur un mur. Bon.
Et c'est là où on en revient à ce qu'on évoquait en off, c'est que c'est la question un peu de la sincérité. De la sincérité dans le rapport, mais aussi vis-à-vis de soi-même, de pouvoir se dire est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Bon, allez, jouons au franc jeu, quoi, et n'ayons pas peur de se dire non, en fait ça ne marche pas, ou à l'inverse de se dire bah moi j'ai vraiment envie, si toi t'as envie d'autre chose, bah on se le dit, puis voilà, mais on gagne du temps, en fait, ça évite
la sincérité comme point de départ,
ouais,
oui, et puis tu gagnes aussi des peines.
Ah bah
tu évites mmh. aux autres, à l'autre, des convenus. Effectivement, la sincérité, c'est pas vraiment une, enfin, si tu comptes sur une relation sincère et durable, a priori, sans cet élément-là, c'est pas possible. Se la raconter, se mentir, ou mentir à l'autre, bah,
ça tient qu'un temps.
Ça fragilise. Hein.
Mmh. Et pourtant, c'est très, enfin, dans la société dans laquelle on vit, où justement les rapports sont de plus en plus superficiels, où on cultive énormément les relations virtuelles, où c'est de plus en plus dur d'avoir des, ben, moi, dans les relations de collègues, dans les relations, même dans le milieu associatif, avant de vraiment créer des vraies relations et se dire, attends, on n'est plus juste en train d'être dans la politesse ou dans quelque chose de... On est vraiment en train de se parler. Il y a vraiment une relation qui se construit et une fraternité ou une solidarité où je me sens bien avec cette personne, mais on a percé la glace, quoi. C'est de plus en plus difficile, ça. Donc, c'est pour ça... Enfin, ça se teinte aussi dans les relations amoureuses, quoi. C'est partout, quoi.
Oui, c'est les deux dialogues, en fait. La sincérité, elle fonctionne dans tous les rapports humains, elle est valable, elle est efficace dans tous les rapports humains, aussi bien en amitié qu'en amour, mais et elle porte ses fruits derrière, quoi. Ça, c'est certain, ouais.
J'ai l'impression que c'est cette trop grande disponibilité qui est presque ingérable pour un esprit humain. On a Tinder, donc on peut avoir 100 matchs, on a Facebook, on peut avoir 1000 amis, et j'ai l'impression que ça fait bugger le cerveau qui, finalement, n'arrive plus à justement percer la glace, comme tu disais, parce que c'est pourquoi vertigineux. Percer la glace avec cette personne et pas avec celle-là, et c'est presque impossible de choisir au final.
Oui, et puis là on est vraiment dans cette idée qui est le mauvais pli, on pourrait dire. Là on va vraiment parler du mauvais pli, c'est de se dire qu'est-ce qui serait le mieux pour moi, alors donc je vais commencer à choisir, et c'est comme si tu prenais un canapé, en fait je vais peut-être le prendre avec cette option là
il y a le phénomène de catalogue.
Ouais, exactement.
Et qui est déshumanisant et très cruel.
Oui.
Et que tu t'infliges, que tu infliges aux autres quand tu es sur une application, effectivement. Parce que ça dépend de chacun, mais tu peux passer largement moins d'une seconde pour choisir si la personne te plaît ou pas.
Donc, exactement.
À la longue, c'est usant. Je veux dire, ça abîme ta perception, la notion de temps. De réflexion, tout ça, c'est complètement écrasé.
Et le côté organique, finalement, des rapports. C'est un peu ça le problème, je crois, de la multiplicité des choix qui se sont accumulés et qu'on peut tout consommer. C'est que pour le cerveau, c'est vraiment vertigineux et que c'est pas organique, en fait. C'est pas bio, comme on pourrait dire, si on prend le terme. Mais c'est que l'organisme humain, le système même des rapports humains, il a besoin de temps. Il a besoin de se rencontrer, de te mettre en confiance. T'as peut-être des peurs à dégager d'abord, et puis essayer de cheminer un petit peu, de faire connaissance. Il y a même des personnes qui sont en quête amoureuse, qui négligent le fait que, déjà, est-ce que tu pourrais te faire de cette personne un ami ? C'est-à-dire quelqu'un à qui tu pourrais te confier. Parce que si déjà ça, c'est pas là, eh ben, ça va être chaud, hein, si tu veux vivre avec. Tu vois, si c'est que basé sur le désir, sur la passion, qui est important, hein, bien entendu, mais qui n'est pas la seule donnée. Donc c'est vraiment l'assemblage de tous ces éléments-là qui joue.
Ouais. Mais à la fin du podcast, il y a un témoignage, moi, qui me touche, c'est les jeunes qui disent que parfois ils ont la sensation de manquer de modèles. Et c'est vrai qu'on et on le ressent dans le témoignage des beaucoup plus âgés, ceux qui ont 80 ans. Ils se posaient beaucoup moins de questions sur la relation amoureuse. Ils se sont rencontrés au bal.
16 ans, 18 ans.
Ils ont, ouais. Oui, et puis ils ont vécu en tout, sur les 66 ans de leur vie de couple, ils ont vécu qu'une dizaine d'années ensemble, en fait. Parce que il y avait toujours, c'était des
seul ensemble, quoi.
Seul ensemble, parce qu'il y avait toujours les parents de l'un. Il fallait accueillir telle ou telle personne de la famille. Donc leur vie vraiment que tous les deux, leur union à eux deux, et ça leur pose pas de problème du tout. Alors que on se pose aujourd'hui trois fois plus de questions. On a cette possibilité là, donc c'est une chance, et en même temps, du coup, c'est une difficulté. C'est un défi tellement plus grand. Et donc, on a de plus en plus besoin aussi d'inspiration forte pour pouvoir continuer à y croire et à remettre un petit peu de sacré aussi dans la vie, dans le quotidien. Alors, les jeunes, ils nous disaient, par exemple, c'était tellement touchant de dire le moment du petit déjeuner. C'était comme un rituel pour eux. Tous les matins, ils se retrouvent et ils sont... Et ils le dévoilent à peine dans le podcast, mais nous, on a pu échanger un peu plus avec eux là-dessus. Et... Je sais pas, c'est un moment où on a l'impression qu'ils sont ensemble depuis 2 ans, mais que chaque matin ils prennent le petit déjeuner comme si c'était le premier matin, quoi.
C'est a l'air trop chou.
Et oui, c'est ça. Enfin,
c'est finalement un temps qu'ils décident de consacrer véritablement.
Et pour moi, ça, c'est remettre du sacré dans le quotidien.
Partager, ouais.
Et ça nourrit. Enfin, c'est dire, on met pause en fait. La vie, elle va tellement trop vite, et en fait, on dit non, on met pause parce qu'on a envie. On a envie juste de mettre un peu de douceur et d'apprendre à se connaître et d'être dans le moment présent, quoi.
Et pour revenir sur l'aspect tout à l'heure qu'on évoquait sur le côté catalogue, le plus drôle en plus, c'est que la plupart des couples qui fonctionnent, il y a un point commun qui revient, c'est qu'ils se disent, bah alors vraiment cette personne-là, bah c'était pas du tout mon idéal spécifiquement, ou ça c'est pas dans le canon, ça n'existe pas.
J'aurais pas choisi ça dans le catalogue.
Non, c'est-à-dire que leur imaginaire et leur fantasme qu'ils avaient de la personne idéale, après ils font, bah ça n'a rien à voir, c'était n'importe quoi. Voilà, donc il y a vraiment ce...
Il y a une ouverture qui semble nécessaire et qui va à l'encontre de la plupart des discours très rationalisants, pas seulement à propos de l'amour ou de Tinder ou de ce genre de choses. Il y a des chiffres pour tout. Et il y a toujours 50 études scientifiques sur chaque sujet qu'il faut traiter. J'ai l'impression qu'on fait surcarburer notre intellect et la part qu'on laisse à la sensibilité et à l'ouverture sur ce qui peut bien arriver sans qu'on y réfléchisse, elle s'amoindrit.
On oublie de mentionner une partie importante de l'amour, c'est qu'on montre aussi ses vulnérabilités. Et ça fait peur à tout le monde, même quand on est en couple d'ailleurs, je pense, ça peut se rappeler. C'est faire confiance à l'autre aussi pour montrer ses faiblesses. Et accepter assez soi-même ses faiblesses pour pouvoir les montrer à l'autre. Mmh. Et ça, je pense que c'est... Enfin, ça va dans ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'être sincère, mais de pas se mentir. Mais il y a cette partie-là, c'est pas que pour le meilleur.
Mais à l'heure où on choisit tout ce qu'on montre aussi, sur Facebook, Facebook c'est le média des vieux. Mais
ça c'est la vitrine, c'est pas l'intimité.
Mais finalement c'est ce qu'on voit du monde qui nous entoure. C'est les publicités, c'est les stars, tout ça, c'est du show, c'est pas des personnes réelles. Et finalement, quand on en rencontre une réelle, bah, on a là, ça correspond pas, je sais pas quoi faire, je suis perdu.
Exactement. Et c'est pour ça que c'est aussi un des éléments clés que je trouve qu'on entend dans les témoignages. C'est que pour cheminer vers ça, il faut aussi avoir un petit peu cheminé au préalable sur soi-même. Et on peut difficilement rencontrer quelqu'un véritablement sans avoir fait une petite introspection quand même sur soi pour essayer de comprendre comment on marche, qu'est-ce qu'on aime, qui on est. Enfin voilà, il y a quand même ce phénomène de, non pas individualiste, mais d'essayer de comprendre qui je suis, et puis après je peux l'offrir à quelqu'un. Si je ne sais pas qui je suis et si je n'apprécie pas qui je suis, ça va être difficile d'être aimable, comme on pourrait dire.
C'est pas forcément un beau cadeau.
Exactement.
Moi j'ai des propositions de musique pour faire une pause, puisqu'on a parlé de pause, de mettre du secret, manger des cookies. J'ai une chanson de Kurt Cobain et Courtney Love ensemble.
Ah bah.
Je ne vais pas vous proposer les autres puisque celle-là, elle vous plaît déjà. On essaye ça ?
The party.
Kurt's leaving me. He's going to marry Winona. Why don't I have a mic on? Why do you have a mic on your guitar and I don't have a mic on mine? I have to go. Oh, sure. Can you play a chord? Okay. Which one do you want to do first? Shall we
do the blues one? No, let's do
that. No, let's do Let Bella. I want to do.
No, let's do. Anyway.
All right, go ahead. I'm a my time and everyone's. I have very bad posture. Sit and drink Penny Royal tea. Distill the life that's inside of me. Sit and drink Penny Royal tea. I'm a demon, Royal tea.
Donc ce couple mythique avec un nom de famille qui contient Love, c'était Kurt Cobain et Courtney Love, si je me rappelle bien.
C'est ça, c'est Courtney Love.
Des icônes, hein. À l'époque où MTV était le canal de diffusion musicale, le millénaire précédent, je pense, on peut dire.
Et ouais. Il nous a quittés, c'était quoi, c'est 94 qu'il est décédé volontairement, Kurt Cobain.
Je sais pas, mais en tout cas, le morceau date de 93, le 8 septembre à Los Angeles. C'est la seule fois où on les a vus ensemble sur scène.
On peut pousser quand même sur le couple mythique, la petite Courtney Love, la pauvre, sa réputation après le décès de Kurt Cobain, sur leur relation amoureuse notamment. Enfin bon. Peut-être pas forcément la plus belle success story amoureuse.
Right here, right now, je mets juste ça pour qu'on s'installe, on finisse sa coupe, on déguste la gourgette café, il est 8h50. Et on n'a pas donné l'adresse sur laquelle on trouve le podcast, je pense. Ou pas assez.
Non, on l'a pas encore assez dit, non. Mais comme les choses sont bien faites, on la trouve partout. On fait une recherche, l'amour sous une bonne étoile, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts. On la trouve vraiment partout où il est possible de trouver des podcasts. On la trouve pas encore sur YouTube, mais sinon, partout où on écoute des podcasts, on trouve.
En allant chercher sur Internet, on trouve ce qu'on veut.
Il y a tout sur les Internets. Et une petite question. Qu'est-ce que vous avez comme autre projet dans le chapeau de côté pour nous? Si vous êtes des polyvalents, hein, il n'y a pas que le podcast dans votre vie en ce moment. Il y a aussi du théâtre, n'est-ce pas?
Ouais, effectivement. Là, je sens que je tombe dans un guet-apens, d'accord?
Non, c'est une question.
Bien sûr, il y a le prochain projet, c'est de remettre en marche ce qu'on pourrait appeler un atelier de théâtre un petit peu particulier. C'est un concept que j'ai créé en 2005, qui s'appelle le laboratoire de création. Et ça consiste à travailler avec des participants amateurs ou expérimentés autour d'un thème. Parce que c'est toujours l'idée d'avoir un thème central par année, d'improviser, puis après d'écrire une pièce unique, puis de leur donner à jouer, et au fur et à mesure on a une pièce inédite. Donc ça c'est le prochain projet, c'est d'en faire un à Bruxelles. On avait fait un à Liège en 2017 avec des amis acteurs, et là c'est donc d'en faire un sur le thème si l'union fait la force, qu'est-ce qui fait l'union?
On dirait qu'on reste dans le thème.
Exactement. C'est un peu la thématique de l'année. C'est un peu le principe de se dire comment vivre une vraie bonne aventure tous ensemble.
C'était déjà un peu le thème dans Global 404. La fiction radiophonique, pour nous, c'était important avec tout ce qu'on a vécu, tout ce que les médias nous ont balancé, enfin les masses médias nous ont balancé pour nous diviser et pour nous faire peur et cultiver l'insécurité. On a vraiment ce sentiment, mais puissant en nous, de dire mais non, mais il faut absolument, en tant qu'artiste, poser des actes
qui nous rassemblent, quoi.
Qui donnent la foi en fait, l'humain rassemblé, c'est possible, ce sera toujours possible, et c'est comme ça qu'on doit vivre, c'est ensemble et c'est pas séparément, quoi. Ça paraît, enfin moi c'est une urgence que je ressens intérieurement de le développer, de défendre ça, de le protéger même. Ouais.
Ouais, de ne pas rester coincé derrière nos écrans en se disant « Ah ben ça va, je suis connecté, j'ai mes 500 amis. C'est super, ça suffit. »
Je pense qu'il faut, comme vous le faites, trouver les opportunités pour s'en rappeler collectivement, se rappeler que en fait, c'est quelque chose qu'on aime, être ensemble, voir des gens, partager des moments de théâtre, de musique, de tout ce qu'on veut.
Ouais, et puis surtout que on est face à un adversaire invisible qui répète inlassablement quelque chose, et à la longue, la répétition, on commence à y croire. Je relisais hier un extrait du Meilleur des mondes d'Aldous Huxley, et il y a cette phrase toute simple qui est tirée du roman où il dit 62 400 répétitions font une vérité. Et c'est glaçant parce que c'est vraiment, je trouve, le monde dans lequel on se trouve à l'heure actuelle. Donc c'est important de pouvoir se rappeler. Qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qui existe vraiment, qui est vraiment là?
Mais c'est pour ça qu'on aime venir à Radio Panique. Parce que ce petit moment-là, autour de la table, on prend le temps d'enregistrer, on prend le temps. Et y a vraiment un échange, quoi. C'est vraiment là. C'est pas on vous envoie un truc pour parler de ce qu'on a fait de loin. Et il y a un plaisir. Nous, on était contents de revoir. Enfin, moi, je savais pas si tu serais là, mais hop, ça y est, on
va. Juste en retard.
Peut-être qu'on connaît. Enfin, c'est chaud. C'est du lien chaud, et c'est vrai que ça, c'est gay, quoi.
Oui, puis pareil, ça a des valeurs pédagogiques, la répétition, n'est-ce pas? Donc la répétition de bonnes choses, et d'optimisme, ça peut se diffuser aussi.
Il y a plusieurs principes à l'œuvre. Ça me rappelle mon frère qui m'a dit, dédicace à Bruno Ernaud, qui m'a dit que c'est un principe en chimie, bon, qui est un peu apparemment un peu foireux sur les bords quand on va dans le fond du problème, mais le principe est le suivant, c'est que tout système va à l'encontre du changement qu'on essaye de lui faire opérer. Donc j'espère que ça peut être vrai aussi, que on est un système, qu'on aime vivre ensemble, qu'on aime partager des choses, et que si on essaye de nous en empêcher, on trouve des chemins de traverse, quoi. On n'a pas envie de se retrouver cloîtré tout seul à la maison et...
Ben oui.
Et d'envoyer tout à distance et de plus voir personne.
Il est trop tard sur Radio Panique.
h 56, pas vraiment trop tard, bientôt.
Et on était avec Pierre, Étienne et Delphine ce matin pour parler du podcast L'amour sous une bonne étoile.
Système avec Sean à 20h30.
Qu'est-ce qui se passe?
Qu'est pas ça? Ah, c'est le GSM de Jeanne. Voilà, c'était parfait pour la fin de l'émission.
Comment t'as fait ça?
J'étais sur le site de Radio Panique.
T'es en train d'écouter la radio ou quoi?
Visiblement.
On se quitte avec Valse avec Bachir.
Eh ben merci beaucoup encore pour cet accueil délicieux.
C'est un plaisir.
Merci.
À bientôt.
Bonne journée à toutes et tous.
Bonne semaine.
Bonne journée.
Oui, très bonne journée. Faites
l'amour.
Faites l'amour.
Faites l'amour.
La seule solution, c'est de vérifier ce qui s'est vraiment passé.
et quel était ton rôle dans tout ça? Ça te semble pas dangereux que je puisse découvrir des choses sur moi qu'il vaut mieux pas que je sache? Soudain, la guerre m'est revenue en mémoire.